Actu SF, les podcasts.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à cette table ronde intitulée Live Long and Prosper. Comme vous venez de vous en rendre compte, ou certainement pas, nous venons de commencer justement à avoir une interaction sociale entre vous et moi. Alors j'allais dire entre vous et moi, partant du principe que là j'ai énormément de mal à pouvoir vous regarder de visu. Pour moi vous êtes une espèce d'amas considérable et j'ai du mal à pouvoir dire à qui je vais m'adresser en particulier. Et tous ces petites choses-là font partie de ce qu'on appelle une interaction, une façon de se mettre, de créer un rapport par rapport à l'autre. La science-fiction a mis cela en scène, j'allais dire la fameuse citation qui est là pour parler de cette table ronde, vous la connaissez toutes et toutes, elle est tirée d'un des plus célèbres, j'allais dire penseurs, voire même logiciens scientifiques de la science-fiction, à savoir Monsieur Spock. Monsieur Spock avait une façon très particulière de voir les choses. Je pense que l'engrand Genfort acceptera de jouer ce rôle-là. À savoir que tout devait être d'une extrême logique. Voire même, la logique expliquait tout, le reste n'était que des sentiments. Et c'est là où nous allons pouvoir justement continuer. Où commence la logique? Où commencent les sentiments? Où s'arrête l'un l'autre? Est-ce que l'un et l'autre font partie prenante? Est-ce qu'on peut les intégrer? Nous allons donc pouvoir commencer cela avec Ada Palmer, qui vient d'arriver, j'allais dire, en France avec un magnifique roman dépeignant une société utopiste existant dans le futur et ayant mis, bon nombre de choses qui pour nous paraissent relever encore de la science-fiction, comme le genre, la question de langage et ainsi de suite, et beaucoup de philosophie. Il faut comprendre que vous étiez une grande admiratrice de la philosophie de la Renaissance. Nous avons à côté de nous un des historiens du futur et un logicien, j'y tiens. Et à côté, une charmante jeune femme qui est venue nous régaler de son savoir et des magnifiques livres qu'elle a écrits. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez tous vous resituer un peu par rapport à ça et voir justement comment vous voyez les interactions sociales? D'abord entre êtres humains, ensuite nous passerons aux extraterrestres et ensuite, pourquoi pas, aux chats.
Je n'ai pas tout à fait compris ce que vous avez dit.
Eh bien, nous recommençons une forme d'interaction sociale. Comment voyez-vous cela dans la science-fiction? Qu'est-ce qu'une interaction, justement, par exemple, entre un être humain et une peuplade extraterrestre qu'il ne va pas, de base, comprendre? C'est un peu le but dans le roman et maintenant le film, Premier Contact. Comment interagir avec une espèce qui ne va pas comprendre, finalement, quoi qu'on en dise, ce fameux geste-là, au début, quand nous leur parlons?
Well, if what you were asking me was when the first time I saw this was in, because I am not a young woman, was in 1966, which is when the first Star Trek began, and that was my first contact with almost any kind of science fiction was that television program. There wasn't a great deal of science fiction. There was for adults, but when I was younger, there was very little that was easily available to me, and so that was it. And it did change my life. One of the things that it changed for me was the way in which the whole idea was to contact the other not from not from above to below, but on a level playing ground, and try to connect with them easily and respectfully. And I think that was part of the feeling of the 60s, that everybody should be equal, and was part of the optimism of the 60s, and that was a very great effect on me.
Alors, ce qu'elle nous a dit de manière absolument magnifique et sublime, que je vais être obligé de réduire de manière superfétatoire, c'est que sa première rencontre donc avec ce fameux signe que vous connaissez toutes et toutes, ça reste effectivement Star Trek, et qu'elle avait été absolument éblouie par la façon dont la série était mise en scène, vu que pour la première fois, nous parlions de contact avec une tentative de traiter l'autre avec respect et surtout de le traiter comme un égal. Et c'est vrai que cela fait partie des idéaux des années 60, idéaux qui, pour ainsi dire, exploseront parce qu'au moment où la série arrive, une des premières séries à mettre en scène des minorités qui accèdent en fait à des places, j'allais dire, que la société leur refuse dans la réalité. Autre point extrêmement important pour la série Star Trek, vous tombez pour la première fois sur une série qui ne met pas en scène non pas une guerre intergalactique, mais effectivement un vaisseau qui avance et qui essaye de mettre en place des relations diplomatiques ici et là. Quelque part, c'est un peu l'idéal tel que l'imaginait la Renaissance, ou voire même les idéaux chrétiens que l'on retrouve justement au niveau du Moyen-Âge, même si j'imagine que vous allez nous dire que c'était très beau sur le papier, mais nettement plus compliqué dans la réalité.
Yes, you're making me think of a book that recently came, a non-fiction book that recently came out in English with the title Savages, Romans and Despots. And it's a history of how Europe started to think of itself as superior to the rest of the world from not having done so earlier. Because in the Renaissance, you know, Western Europe still thinks of the Ottoman world and China and India as more sophisticated than it, more wealthy. You know, this is where gold and exotic treasures come from. These are more advanced civilizations than Europe. Europe thinks of itself as being privileged by being Christian, but not of being more advanced in technology. And between the 15th century and the 18th century, ending in the 19th, there's this slow transformation, most of it in the later 18th and 19th centuries, in which Europe instead starts to think of itself as superior. Because it's easy for us to think of Europe as always having expected contact to be from above to below. And it's very clear in the Middle Ages and in the Renaissance that the expectation is that it's going to be either between equals or, in fact, from below to above. But that then a reversal of that happens up through the 17th and 18th centuries. And we're now re-reversing that and making it equal again.
Alors, est-ce que vous serez d'accord pour dire avec moi qu'en fait la société était un poil plus égalitaire vers la fin du Moyen-Âge, mais que la Renaissance a amené énormément d'inégalités en interne, par exemple entre les relations hommes-femmes, où on sait maintenant que pendant le Moyen-Âge, the Middle Age, les femmes pouvaient accéder à des positions de pouvoir, faire, j'allais pas dire ce qui leur plaisait, et là, ça, je dirais, malheureusement pour l'instant, ça reste de la science-fiction, mais avaient une place qu'on ne leur refusait pas au sein de la société. Et que ceci a été remis énormément en cause au début de la Renaissance, où on voit effectivement ce qu'on peut considérer comme la mise en place de la supériorité de la société occidentale, j'irais même jusqu'à dire de la société occidentale blanche.
I mean, the science fiction has in it strong themes of empire.
Yeah.
And you know, when we talk about moving out into space and living there, it's still the word colony. It has all of these connections with the Age of Empires, which was also therefore filled with problems. So one of the things that I find exciting about writing right now is that I and many other new writers who are entering the field right now are very excited by saying, how can we write about science fictional things, including space empire and space colonies and movement into space, but in a way that celebrates encounters of equality instead of encounters of inequality? And Star Trek is an interesting example there because it has both. Because the advanced civilizations, the ones that have space travel, are always encountering each other as equals. And the humans and the Vulcans and even their enemies such as Romulans or Klingons are encountering each other as equal. But you also have these many moments of contact with primitive planets where the Prime Directive says to not interfere, etc., which are very hierarchical encounters, that are encounters of above to below. And so that Star Trek has both of these layered on each other and explores the problems. And because different people write different episodes, some of the episodes are very good about how it handles this problem, and some of them are very unexamined in how it examples this, how they represent this problem. So that the legacy of Star Trek has been leaving a lot of examples, good and bad, mixed all together, of ways to deal with the problems that are empire and the positive things that can be what we aspire to have empire become in the reality of our real space exploration.
Arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais d'une certaine manière, je crois que les romans de space opéra de Becky Chambers s'amuse à traiter, justement, à revoir cette vision qu'on peut avoir, une vision très guerrière, j'allais même dire très économique, finalement. On crée en place un empire qui ne peut de toute façon perdurer qu'en se lançant dans des conquêtes qui vont pouvoir lui permettre de se maintenir. Alors justement, nous parlons empire, nous parlons vaisseaux spatiaux. Je me retourne vers notre barde du futur, du moins du fait, je vais t'appeler Paul, qui lui justement s'est amusé à écrire énormément de space opéra. Je crois que tu es revenu il y a peu de temps, si je ne dis pas de bêtises.
Je quitte un peu le space op pour faire
quoi
un peu de... Oui. Ben, j'ai eu un long passage space opéra et là ça se clôt pour quelques années là. Mais on parlait en fait de Star Trek. C'est marrant de tout de suite quand on pense finalement à la personne la plus polissée, la plus c'est Spock, qui est vraiment une figure de gentleman. Alors que justement, il refuse justement l'émotion. Et finalement, c'est la personne la plus finalement la plus polie de la série quasiment. Et je trouve que c'est intéressant aussi de voir comment en fait. Les États-Unis, c'est une civilisation très légaliste, et c'est intéressant de voir comment c'est relativement facile finalement d'être poli avec les Klingons, parce que c'est une société qui est extrêmement codifiée. Et je pense que c'est facile d'être poli dans une société très codifiée, parce que c'est justement ça qui établit les codes de communication. Donc on n'a pas à se poser la question de la nature de son interlocuteur. On reste dans des canaux qui nous sont imposés, et la société Klingon, c'est une société corsetée avec énormément de rituels. Ils ont des rituels pour tout, et à partir du moment où on connaît la culture, et finalement c'est une des bases de la politesse, c'est de connaître, pour être poli il faut connaître la culture de l'autre, ce qui est une façon de reconnaître son existence. Et je pense que la base de la politesse, fondamentalement, c'est ça. C'est la politesse, c'est dire je vous parle, ce que je fais c'est je vous communique pas que de l'information, je reconnais aussi votre existence. Et finalement là, je pense que la politesse c'est ça. C'est rigolo de voir la différence entre une société à la Klingon où la politesse est obligatoire, sinon on se fait tuer si on déroge aux règles, face par exemple à la culture de Yann Banks où il n'y a pas besoin d'être poli. On est dans une société qui a totalement dépassé les contingences, et c'est une société pacifiée où les gens ont fait suffisamment de où le niveau de civilisation est suffisant pour ne pas avoir besoin de se parler en passant par des canaux, des rituels et des choses comme ça. En fait, des canaux codifiés.
Voilà, à quel point toute civilisation ne vit pas sur des rituels. Quand tu parles des Klingons, là, moi, ça me faisait penser automatiquement à l'Empire japonais et à l'un des premiers essais qui a été écrit lors de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'était le chrysanthème et le sabre, pour qu'on puisse expliquer aux soldats américains qui allaient arriver au Japon dans quel type de société extrêmement codifiée ils mettaient les pieds. Et surtout, à tous nous écouter, je suis en train de me dire, mais à quel point finalement un contact, le fait de dialoguer, n'établit-il pas de fait un rapport de force? Est-ce que ça en dit pas plus long finalement sur la nature humaine?
Dans l'acception française, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça dans l'acception anglo-saxonne, mais dans le terme de politesse, il y a impliqué un peu la notion de mentir, mais mentir pour la bonne cause. On ne va pas dire un certain type de vérité sur le fait qu'on n'aime pas celui qui est en face, mais c'est pour la bonne cause en fait.
Oui, c'est extrêmement ritualisé dans les sociétés dites asiatiques.
Voilà. Et c'est pour ça, la force d'un Spock, c'est que c'est quelqu'un qui arrive à rester poli en toutes circonstances et à respecter l'autre tout en disant la vérité. C'est ça la force de ce personnage et du type de société qu'il incarne aussi.
La perfection à l'absolu. La politesse poussée à son paroxysme pour pouvoir justement interagir le plus naturellement un autre. Moi, je l'avais vécu, c'était par rapport à... Alors maintenant, ça commence à remonter énormément pour moi. L'androïde, Data. Où il y avait justement... Là, on retombait sur une autre forme d'interaction. C'est-à-dire comment un être humain peut-il interagir avec un robot qui, au final, va essayer de comprendre des interactions qui, pour lui restent mystérieuses.
There are so many things going on that I am trying to think four things at once, and that is the truth. One of them is that a society that is based on a lot of rituals allows you to interact only through rituals. And that can be extremely convenient. It can also be extremely manipulative. And I think that there are, I think Ursula Le Guin, I think Becky Chambers, I certainly think that Orson Scott Card, almost more than anybody else, is a master, partly because Orson Scott Card comes from the American South. And the American South, the culture is very much of the, everything's just so sweet all the time. And you can say, there is a saying in the South, bless your heart, which is que votre cœur soit béni. And depending on how you deliver that line, it can mean you're a very nice person, I really think that you said a lovely thing and I like you very much, or it can mean you are terrible and I hate you. It's the difference between bless his heart and bless his heart. And everybody in the South knows this. It's something that you drink with your mother's milk. And if you don't have this secret decoder ring, you can get into a lot of trouble. And there are many phrases like this. And Orson Scott Card is a Southerner, and he understands how you can say three things at one time, and if you know that your audience does not understand the one that you don't want them to, then you really go for it.
Je pensais à Jack Vance aussi, certains dialogues de Jack Vance qui sont dans une extrême politesse et qui sont remplis de venin, comme ça, tout à fait.
Ah bah, je pensais, moi, tout bêtement, au langage diplomatique, où il faut toujours rester calme, poli, avec un langage fleuri, même si la première chose auquel vous songez, c'est répandre les tripes de votre adversaire sur la table, parce que vous savez que la négociation ne va pas pouvoir se terminer de très très belle manière. Et il faut éviter de dire des horreurs à celui en face.
And both in Gene Wolfe's Book of the New Sun series and in one particular episode of Star Trek Next Generation, the title of which I can't remember, both of them depict encountering a society where people communicate only in stock phrases, that the only speech is reciting stock phrases that culture uses over and over. And yet you know what that stock phrase's secret real meaning is. And it might be a propagandistic stock phrase about, you know, the country prospering, and what it means is the man went down the road. And Gene Wolfe actually depicts telling a story entirely in these phrases, with then a translator translating them into the secondary meaning that only someone who knows the culture well would know. But both of those are looking at the idea of a culture where language has been so distilled down to just set units that it can't be repurposed into original language anymore. And yet the Orwellian outcome hasn't happened. That even though speech is so prescribed that it can only be done through these set phrases without any original speech, the way people recombine them and the way they use them and the way they give them nuances and the way they recontextualize them still allows you to communicate something very original and very sophisticated, even if all you're using is rearranging Lego blocks of language.
I actually think I remember that episode because they kept saying that they spoke in metaphor, and they aren't metaphors.
No, they're not.
It drove me crazy because I am an English teacher. But it seems to me that what you are describing is what they would have liked that episode to be.
It's what that episode is trying to be about. And it's what Gene Wolfe does with much more richness in Book of the New Sun.
C'est amusant, parce que quand vous en parlez, moi, ça me rappelle le fait, l'une des grandes questions qu'on se pose au niveau des traductions, par exemple, quand votre œuvre est traduite de l'anglais au français, la majorité des traducteurs vont dire, nous sommes obligés de tricher. Nous ne pouvons pas, pour ainsi dire, retranscrire complètement l'œuvre telle qu'elle est, parce que le lectorat n'aura pas forcément les clés de compréhension ou les clés culturelles pour pouvoir comprendre telle ou telle notion. C'est pour ça que pour ma part, j'adore traquer les notes de traducteurs pour qu'on puisse nous expliquer c'est une référence à tel duel politique oublié de 1885 ou au contraire, c'est un jeu de mots qui a été fait provenant, pour ainsi dire, de la vieille société sudiste, et ainsi de suite. Vous avez des différents degrés culturels, effectivement, nous ne sommes pas à même de comprendre. Et j'imagine que pour vous, quand vous venez en France, ça doit être à peu près pareil. Il doit y avoir des tonnes de choses qui peuvent vous paraître étranges ou pour le moins décalées. Par exemple, l'obsession qu'ont beaucoup d'hommes de vouloir absolument tenir la porte pour que vous puissiez passer. On en discutait tout à l'heure, c'est une forme de galanterie, mais n'est-ce pas surtout une forme de séduction et de rapport justement homme-femme, et ainsi de suite. Donc est-ce que, pour revenir au début de ma pensée, on ne peut pas considérer, est-ce que le langage finalement est-il appelé à dire, à être la vérité ? N'oublions pas le début de la Bible, pour ainsi dire, le verbe est vérité. À partir du moment où nous communiquons, nous essayons justement d'interagir les uns avec les autres. Oui, mais à quel niveau ? Est-ce que, au contraire, ça me rappelle toujours certains bouquins de science-fiction, du jour au lendemain, les gens se retrouvent obligés de dire la vérité, les sociétés, si ce n'est pas les relations, périclitent, parce que personne ne peut être sincère vis-à-vis de tout le monde. Donc, au niveau de la société, justement, de Star Trek, n'y a-t-il pas une tentative de mettre en place des sociétés beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus inclusives, beaucoup plus, sympathiques, que n'était la réalité de l'époque ? Et n'interroge-t-elle pas elle-même la société qu'elle représente par rapport, en imaginant une société, entre guillemets, fantasmée, nettement meilleure que ce qu'étaient les États-Unis de l'époque ?
Well, I think that manners, to a certain extent, are an expression of respect. It is institutionalized respect. It is respect towards certain people that the society thinks well of. So anybody above you, you are going to open a door for, right? And because of the history of the Middle Ages, and that women were always supposed to be like the Virgin Mary, except when they weren't, that there was also supposed to be respect for women at a certain social level.
But it also ends up varying culture by culture. So you have cultures where the rule is the younger person opens the door for the elder person, and you have societies where the rule is the male person opens the door for the female person, and you have societies where the rule is the sort of leader of the group will open the door for the others because that's a leadership role. And you have cultures where it's the opposite, where it's the lowest status person who's supposed to open the door and hold it for the higher status person, which means, as you were saying, that when you translate a book from one language to another language, if you have a character who opens the door for another character, the implication of that is going to be different in the different language groups, because if this is written in a society where men holding the doors for women is normal, and it's translated into one where men holding the doors for women is old-fashioned or unexpected, or young and old vice versa, you end up setting up the character wrong. And in many ways, it's more authentic to the book for the translator to change that and have the other person be the door holder to communicate the right thing, than to leave the action unchanged and therefore communicate the wrong thing about the character, if you see what I mean, which is one of the real subtleties of translation.
So basically what you're saying is that gestures of that sort are as much an idiom as a linguistic idiom and should be therefore translated into the culture.
Exactly. I had a very fascinating set of conversations recently with the Polish and French translators of my book, which has just been translated into both French and Polish, because they had interesting different problems with the gender pronouns. Now, so in the book, I use gender pronouns in a very unusual way. This is a future in which, when speaking English, nobody uses gendered pronouns. Everyone uses the singular they for everybody in ungendered language. However, the narrator uses gendered pronouns when talking about people, because the narrator is trying to write in the style of the 18th century and be archaizing, so that the narration and the dialogue don't match. And one of the things that this communicates right now to a reader in English is that the singular they is associated right now in English-speaking places with the political left, with progressives, with movement toward gender equality, with movement toward trans inclusivity and non-binary inclusivity and LGBTQ inclusivity, and a future in which everyone uses the singular they feels automatically to an English reader like a future where the left has been culturally victorious. The opposite is true in Polish right now. In Polish, what the progressive left is pushing for is having the most gendered vocabulary you can. You always use the feminine form when it's a woman, to always use the feminine form for teacher and taxi driver and everything. It's not a professor, it's a professoress and a driveress and a tailoress, to stress the presence of women and combat the erasure of women. And so it's backwards. So what this means is, if he translated my work into Polish with the gender the same way, it would read to a Polish reader like a future where the right won and the left failed. Whereas in English, it feels like the left won and the right failed. And so one had to choose between the political valences of the book and the literal gendered language. So the choices he made were very different from the English language choices, and in turn different from the French language choices, because there are, you know, idioms, vocabulary usage also have deeper political, social, hierarchical links where the author, the translator, has to choose between the meaning of the words and the sense those words is trying to communicate about the world and the world building, which is so essential to science fiction and to fantasy.
J'étais en train de faire une rapide recherche parce que vous m'y aviez fait penser justement avec l'utilisation d'un prénom, pour ainsi dire, qui permette d'éviter de poser les questions de genre. Et cela m'a rappelé une autre œuvre qui est sortie chez nous en français, qui a été faite par une autrice, Tilly Walden, qui imaginait en fait un futur dans lequel il n'y avait plus que des femmes, il n'y avait absolument plus aucun homme, et toutes les interactions entre elles en fait étaient justement, je me demande si c'est pas en partie... inspiré de vous, utilisé par des pronoms, nous on dit il, ou effectivement, enfin, pour vous ça serait ze. Et toute la question, alors ça m'avait amusé maintenant que j'y songe, le livre avait été chroniqué sur des forums de BD, et je me souviens que j'avais arrêté de compter au bout de 10 pages les gens où la seule question existentielle qui se posait, c'était où étaient passés les hommes, plutôt que se demander mais comment on est arrivé à telle société. Comment sont les interactions, on s'apercevait qu'au final, celle-ci était nettement plus douce, entre guillemets, beaucoup moins violente. Et puis, qu'on en avait, bah, pardonnez-moi du peu, un peu rien à foutre, c'est qu'on lisait une histoire qui racontait l'histoire de gens qui vivaient dans un futur et qui menaient la vie comme ils l'entendaient. Sans quoi, on est d'accord, c'est de la science-fiction, ce serait bien si ça se réalisait. Mais... d'où vient comment c'est mis en place justement la volonté de se battre par rapport au prénom? Pour nous, l'américain est quelque chose d'extrêmement neutre au niveau des prénoms, tandis que nous allons avoir en français par exemple toute une gamme de prénoms qui vont en plus s'adapter par rapport d'un point de vue grammatical, d'un point de vue verbal ou autre. Là-bas, comment s'est mis en place ce combat finalement pour la langue, pour l'utilisation d'une langue qui permettent à chacun de se définir et de se sentir exister, ou voire même plutôt coexister au sein d'une société. Qu'est-ce qui...
A thing that's been very interesting for me is that when I started writing these books, very few people were using the singular they. It was very rare. I was writing this in 2007, 2008, and finished the first drafts in 2008. And at that time, some of my readers reading the books struggled to even understand the sentences that used the singular they. It was uncommon then. It then took until 2016, so 8 years, for the book to come out. And during that 8-year window, there was a huge shift in pronoun use in the USA. Newspapers started using it, dictionaries started using it. Everyone became more accustomed to it. So that, in fact, in the final version that was printed, I had to take out a bunch of material that had been designed to help people get used to the singular they in the original that had been needed in 2008 that weren't needed in 2016. So language is moving very quickly. The short answer to why being because internet. And there's a great new book about how language is evolving called Because Internet. That's the title, Because Internet, by a brilliant linguist, which is looking at how English... because there is more online content in English than any other language, and because enormous numbers of people who are not primary speakers of English use and generate and write English online. English is evolving more quickly than any other language as a result of the internet and new usages that develop and are shared there. So English is changing faster than French. English is changing faster than German, changing faster than Japanese or Chinese. In fact, it may well be changing faster than any language has ever changed in the history of time, because there has never been such a rapid influx of material being produced, especially by people for whom English is a second language. There are far more speakers of English as a second language than of English as a first language. And in fact, linguists are discussing whether English, the online second language of the world, should be considered the real English, and the English spoken by native speakers of English should be considered an unusual dialect of English, which is not the primary one, since there are millions and millions more users of online ESL than there are native speakers of any version of spoken English. So that evolution means that, you know, even when it came out, the way I was pushing the envelope in 2008, when I was challenging my reader to try to parse the singular they, by 2016, it was people were, I'm totally used to the singular they. This isn't difficult at all. Why are you bothering to rub it in my face that we're using the singular they? Because they were used to it, but in just that short of an amount of time. The main reason being, people had been struggling to come up with a gender-neutral way to use the third person because they felt it was important not to continue excluding women from generic sentences, to which communicates the default idea that all things are male unless otherwise specified, which English lacking gender differentiation on other words, I think it's more of a problem. Gendered words mean less in a language like French, where the table is gendered and a cup is gendered and the ceiling is gendered and a cat is gendered and a turnip is gendered, and it makes the gendered endings and pronouns mean a little bit less than in English, where the only things that are gendered are people and animals and their sexes and other things to which we're extending those sexes metaphorically.
Alors dans les faits, arrêtez-moi si je me trompe, on pourrait presque dire que la langue évolue tellement rapidement dans la société qu'elle va très certainement influencer, voire même accompagner celle-ci vers plus de changements. Okay. L'autre chose aussi, c'est assez intéressant que vous disiez ça par rapport à la façon dont nous avons de nommer les choses en leur donnant un nom qui déclare si c'est un masculin ou un féminin. En fait, ça, c'est une des particularités du français. Ça a été dû à une grande uniformisation dans mes souvenirs qui date limite de l'après-révolution française, où effectivement, on a estimé que c'était très très important de donner une consonance soit masculine, soit féminine, pour pouvoir créer, à mon avis, des degrés divers au sein des différences, au sein de la société, et pouvoir, pour ainsi dire, trouver une place à chacun. Alors, vu qu'on a tourné beaucoup autour du langage, de la société, du passé ou autre, je propose que nous refassions un bond vers le futur. Yeah.
You too.
On parlait tout à l'heure de politesse, de monde alien et de tout un tas d'autres choses. Justement, toi, quand tu crées même maintenant des sociétés extraterrestres avec lesquelles l'être humain était, j'allais dire forcé, mais le terme est impropre, aller interagir, comment faisais-tu justement toute la création, que ce soit au niveau du langage, de la société, des rituels, et ainsi de suite?
Déjà, en fait, le fait de traiter des aliens, ça permet de mettre en évidence cette problématique de la politesse, en fait, du contact, et de finalement de. Et c'est encore une fois, c'est assez marrant. La figure de Spock, elle est quand même très intéressante, je trouve, parce que c'est un personnage qui n'existe plus depuis longtemps. Il était juste dans la toute première saison, dans la toute première série de Star Trek Original Series. De 66 à 68, et puis après c'était terminé, quelques films, et puis après c'était fini. Et pourtant ça reste la figure centrale, peut-être parce que, ouais, iconique.
Dis pas ça à James Tickler qui s'en est
non,
jamais
non,
remis.
Non, oui, voilà, mais c'est aussi parce que peut-être qu'il pose justement cette question comment dire, de la politesse et de la civilité. Et voilà, c'est finalement, il se comporte de la même manière avec tout le monde, et c'est ça peut-être le plus ce qui définirait peut-être le plus quelque chose qui transcende la politesse finalement. C'est parce que la vraie Spock, il est civil, il est pas poli, il est civil. C'est-à-dire qu'il va se comporter avec de façon égale et avec la même curiosité bienveillante avec tout et n'importe quoi. Et finalement, c'est peut-être ça qui distingue un point de vue sur le monde qui est, d'un côté, la civilité, ce rapport au monde égal et qui fait qu'on va être attentif aux réactions d'autrui plutôt que à Rome fait comme les Romains, qui est l'expression d'une sorte de relativisme civilisationnel. Et finalement, les interactions avec les aliens, ça permet de confronter ça. Est-ce que, par exemple, dans une société où il est poli de tuer son interlocuteur qui va vous traiter de schtroumpf, est-ce que réellement c'est de la politesse, même si c'est dans les codes sociaux de la civilisation qu'on a en face? Et ça, traiter des civilisations aliens qui peuvent se confronter à des principes de base, ça fait partie du boulot de la SF d'explorer les réactions humaines face à ça, humaines et non humaines d'ailleurs. Voilà. Bah, de tout en fait. Là, je prends l'exemple extrême qui est de tuer quelqu'un, c'est éliminer la personne en face, qui est une sorte de truc extrême et de terminer la communication. Mais il y a des tas de façons de la terminer, justement, la communication.
Ça me rappelle
en l'enfermant dans un cadre, par exemple.
Ça me rappelle la fin potentielle de La guerre universelle de Joel Lehman, qui m'avait énormément marqué, où c'est une guerre en fait qui dure pendant des siècles et des siècles avec une espèce extraterrestre, et à la fin, l'humanité, pour pouvoir continuer, pour ainsi dire, le combat, crée des clones, et on utilise des vaisseaux spatiaux remplis de clones, jusqu'au moment où l'un des vaisseaux spatiaux va entrer en contact avec la race extraterrestre, qui vont s'apercevoir qu'ils peuvent communiquer, ils vont créer une espèce de langage des signes, et la première question que vont poser les extraterrestres, ça va être: pourquoi avez-vous commencé? Donc on se rend compte qu'ils se font une guerre qui dure...
C'est basé sur un malentendu.
Voilà, ouais, complètement.
Ouais. Mais comme des vraies guerres qui sont basées sur des malentendus. Ouais.
Et là où c'était marrant, c'est qu'il y avait toute une question où ils montraient qu'on tombait, pareil, comme tu dis, sur une société extrêmement ritualisée. C'est que de l'autre côté, on les avait baptisés les Taurans, vu qu'ils venaient de la constellation d'Aldébaran, mais qu'Aldébaranien, ça disait rien à personne. Donc vu qu'il y avait la constellation du Taureau, là par contre, ça parlait aux gens. Et on voyait, c'était des clones naturels. Donc on tombait sur une espèce complètement différente de la nôtre, qui se reproduisait, je dirais, sans rapport sexué ou autre. Et il n'y avait même pas la même façon de concevoir. Bon, on tombait sur une société étrangère, j'allais dire. Et comme tu dis, ça renvoie systématiquement la SF, j'allais dire, c'est un peu le cadre du rapport à l'autre. Donc c'est à nous de décider comment va être celui-ci et quelles règles nous allons appliquer.
Sur le thème de la politesse, une nouvelle m'avait marqué, même si je me rappelle plus ni du titre ni de l'auteur, mais c'était une nouvelle de l'âge d'or, et des colons terriens abordent une planète avec des aliens, et puis ils vont faire toutes les marques de politesse qu'ils connaissent. Donc ils vont leur serrer la main. Alors les aliens, ils se tordent de douleur parce que dans la transpiration humaine, il y a une protéine qui fait que ça les brûle jusqu'à l'os. Donc ils vont s'approcher pour leur faire la bise, et les aliens, ils tournent de l'œil parce que dans le CO2, le niveau de CO2 de l'haleine les fait s'évanouir. Et en fait, toutes les tentatives de politesse humaine finalement vont échouer, et ils vont se faire virer manu militari de la planète. Et en fait, quand ils sont partis, les aliens se rendent compte qu'en fait, que partout où les humains ont touché tous les objets en bois les maisons, les objets, en fait, ça a fleuri. Parce qu'en fait, l'huile qu'on a sur le film d'huile qu'on a sur la peau, en fait, a ravivé le bois. Et en fait, ça fait partout où les humains sont passés, en fait, ça fait des massifs merveilleux, quoi. Donc et je trouvais que ça symbolisait très bien l'espèce de part de chaos qu'il y a dans les relations et qui et justement qui font que même on aura beau codifier, on aura beau essayer de réguler tout ça, en fait ça marche pas, et l'humain et le spontané justement se fraye toujours un chemin, quoi, à travers les conventions.
Ça me rappelle un très beau roman, je crois que c'est de C.G. Chéri, L'œuf du coucou. En fait, tout est vu à travers une société extraterrestre. C'est un peu comme si c'était des chats humanoïdes. Et c'est le rapport entre un chat qui est chargé d'élever un être humain. Et on comprend en fait qu'il y a eu un contact et que ça s'est très très mal passé. Et la nouvelle avait une chute, mais pour ma part, qui m'avait énormément plu. Bah, j'étais jeune et puis on sortait pour une fois, j'allais dire, de la logique un peu guerrière, vu que là, on avait une tentative de recontact à nouveau et de compréhension. Et vu que tout était vu par le prisme d'une société extraterrestre qui ne comprenait même pas comment nous fonctionnons, c'était assez fascinant. Il y avait tout justement toute la question à la fois du langage, mais aussi de l'éducation. Comment élever un enfant qui ne fait pas partie de votre espèce et qui n'est pas à même de comprendre les règles de base dans une société extrêmement figée, qui plus est.
Well, it's true that that if you're writing a novel, you have to have conflict. And the easiest kind of conflict, especially given human nature and what we know about from our personal experience, is trying to make friends with somebody who maybe doesn't want to make friends with us. We're going to come up with something that's antagonistic, because that's the easiest kind of conflict to have. And I think that to a certain extent, when somebody is imagining a book or imagining a universe, Molly Gloss is the only writer I can immediately call to mind, and possibly Becky Chambers as well, who has made a good faith effort to write a novel. It's called I can't remember the name of it, but it's basically Quakers in Space. and they discuss everything. There are many, many longueurs, but it is a fascinating novel, because it is a novel that is predicated on the fact that conflict can always be resolved if both parties are of goodwill. And that is not, it's very hard to write an exciting novel under those circumstances. Becky Chambers' book, I found, had a similar thing to that, but she brought the conflict in from outside, and there was also interpersonal conflict, so that was something that helped drive the narrative. But a lot of science fiction, although optimistic in that there is still a civilization thousands of years from now, the unoptimistic thing is that it's very much like ours, because in fact you cannot imagine something you can't imagine. You have to balance what is possible to imagine. We live in a war-torn world. We live in a world that is not in a good place right now. And trying to imagine beyond that, and how we can bring points of view together that seem to be so far apart when we're all human. It makes it even more difficult to figure out how we can approach aliens and they can approach us without somebody stepping on somebody else. But you have to say, it's a novel. It has to have conflict.
Both first contact stories and stories where we're trying to depict a perfectly rational being like our Mr. Spock tend to also expose a lot about the author's assumptions about the human nature or the sort of natural course of things. How would a perfectly rational being behave? The author's assumptions about the nature of reason come to the surface with that. And that also tends to happen with first contact stories. You see something of the author's expectations of what will happen. So one of my favorite first contact stories, which many people will not call a first contact story, but it absolutely is Diderot's novella, Rameau's Nephew, Le Neveu de Rameau, de Denis Diderot, because in it he's depicting this person who is perfectly rational, he says, who has had an enlightenment education and does everything based on perfect reason, exactly as we would describe Spock. And the result is the opposite. He's rude to everyone. He's equally rude to everyone all the time. He can't force himself to go through the rituals of politeness. They're meaningless. He can't force himself to do it. The rituals of everyday getting along are too irrational. Whenever anyone asks him a question, he gives a blunt, curt, frank, honest response instead of a kind, careful, measured response. So the result is everyone hates him. He had a son and abandoned it at a foundling hospital because he knew the kid would be miserable if raised by him. It's a fascinating thing to read as a first contact story, which Diderot really is thinking about: what will the future person raised on my encyclopedia be like? They will be like this. They will be scary to me, but they will be more rational. Is it worth it? And so there we see the differences between the assumptions Diderot made and the assumptions the creators of Spock made. And my favorite set in many ways of first contact stories are in the works of the Japanese author Osamu Tezuka, a manga author, the creator of Astro Boy and Blackjack and some other things. So he wrote 700 different works. And he wrote something along the lines of 350 different first contact stories. In one of them, there is peace. In all the other ones, it turns into war. It usually turns into the attempted or successful genocide of one side by the other. And all of those stories are very powerful, very gripping, very chilling. The really scary one is the one where there is peace, because he does such an amazing job depicting how difficult it is to achieve that peace. This is Astro Boy. This is why Astro Boy is his most famous work. That's the one where there is peace. There are humans and robots, and they managed to coexist, and they managed to give each other civil rights and legal protections. And it isn't perfect peace, and there are hate groups, and there are lynchings, and there is political turmoil, and there is prejudice, and there is this constant precarious effort to fight back. And it's so terrifying in a much more deeply, deeply emotional way than the wars are. Because in a war, somebody will win, and it will be a good win or a bad win, etc. But what we really cared about was the peace, right? What we cared about was the society, whether it could have peace, how hard everyone worked to attain and maintain that peace. And I think one of the most heartbreaking stories I've ever read is the story in Astro Boy in which we learn how they made peace. This is most of the way through the series. And we've had this very unsettling, precarious peace between humans and artificially intelligent robots. We've seen Astro Boy navigate it and be one of the defenders of it. We've seen how difficult it is to get humans to want to respect the civil rights of robots. And then he gets sent back in time, a few years to before the Civil Rights Act for robots got passed. And he experiences for the first time what it was like to be property, and what it was like to not have civil rights, and what it was like to be treated beforehand. And we, the reader, are in great suspense. We're going to see it. We're going to see the moment when they made peace. We're going to see this triumph that in the other 249 first contact stories failed, we're going to see it succeed. And what happens is that aliens come by and make friends with Astro Boy and hear that he doesn't have civil rights, and take giant nuclear weapons in space and threaten to kill all the humans if they don't give robots civil rights. So the humans give the robots civil rights. And it's not a victory. It was done at gunpoint. And it is the most heartbreaking thing I've ever read. Because it's the author saying, look, I don't think we can ever make peace. This is an author who lived through World War II, who saw his own country go mad with a xenophobic conquering mania that he hated and campaigned against his whole life. This is his pessimism saying, I don't think, in fact, humans can be peaceful. But if we were to be peaceful, here is what it might look like. It's so powerful as a first contact story and as a story about the precariousness that is peace. It's one of the things I tried to use as my model as I depict a world of attempted peace in my own fiction. But it's always what I think about when people talk about whether first contact exposes the best in us or the worst in us. It depends on what we think is deep down. Tezuka, who lived through World War II, thought that there was something really bad deep down inside humanity that he had seen do that. He was very pessimistic about human nature. Others who live in more peaceful times or who have different kinds of optimism think that you're going to get, you know, Quakers in space cooperating. There's a vast spectrum in what we think you burrow down to in the human heart and in aliens' hearts that first contact stories depict, which is why no matter how many hundreds of first contact stories you read, reading more is always rich and powerful, because you get a different author's impression of what could be deep inside people.
Pour conclure, je dirais même Regardez Galaxy Quest si vous voulez voir une forme de premier contact absolument délicieux. En tout cas, merci à toutes et à toutes. Nous allons donc maintenant passer quelques micros si vous avez des questions, mais je vous demanderai d'être relativement court et rapide, hélas, vu que nous sommes bientôt à la fin de l'heure qui nous est donnée.
Footnote. Molly Gloss's book is called Dazzle of Day. Because Internet is written by Gretchen McCulloch.
Thanks.
Eh bien, ah, oui, là-bas. Remanifestez-vous. Non, pas d'autres questions? Eh bien, merci à toutes et à toutes, et je vous souhaite un très bon festival.
Merci.